C'est la dernière messe de l'année. Puisque demain, on commence l'année prochaine. Plus exactement, on commence depuis quelques... Enfin, à l'heure du soleil, c'est dans une heure. Puisque là... C'est là... En rentrant dans l'année liturgique des chrétiens... Dure un an, d'ailleurs, comme l'année civile, mais voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année. Et surtout que, toujours pour faire en sorte que l'année prochaine, et surtout l'année suivante, soient des années d'épanouissement, de lumière, et, je sais pas, d'amour surtout, c'est sûr. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, on termine l'année A, vous savez, ça fait pas très poétique, mais demain, on commence l'année B. C'est pas très poétique, c'est vrai. Le Aleph, c'est l'adoration, l'admiration. C'est une année d'admiration aujourd'hui, vous voyez, qui se termine. Puis l'année, le Beit, c'est plus une année d'intériorisation, une année de clôture de l'intimité. Pour s'ouvrir à des espaces auxquels nous sommes complètement ouverts. Mais cette ouverture, elle dépend de nous, quoi. Elle dépend de la profondeur de notre intimité. C'est le bête, ça. La clôture de l'intimité. Alors, il y a un repos, un repos dans le combat, parce que tout s'ouvre sans arrêt. À la grâce, à la vie divine, à la présence de Dieu. Et la troisième année est une année, bien sûr, c'est une année d'humilité, une année d'espérance. On descend de son cheval, oui. On descend de son... Pour entrer dans... de son dromadaire, de son chameau. C'est comme faisait Rebecca, quoi. Elle est descendue de son chameau. Puis, du coup, elle a pu vivre une grâce très forte, une grâce nouvelle. Elle a été la mère d'Israël. Voilà, donc, que ça ne nous empêche pas quand même de continuer notre méditation sur la stensalité, n'est-ce pas? Et ça ne nous empêchera pas, bien sûr, même si c'est la fin d'année. Regardez, l'évangile de la fin est le dernier évangile qui est choisi. Oui, c'est Jésus dit, on vient de l'entendre, d'accord, il y a cette bête effroyable qui écrase tout avec ses dents de fer, de bronze. C'est-à-dire les dents, c'est les vertus, les qualités de cette bête, c'est sa puissance, ses vertus, son habitus, son habileté. Une habileté extrême. C'est ses dents. Les vertus, voyez le sourire. Les dents représentent les vertus. Les qualités qu'on a. Mais à l'inverse, bien sûr, les vices. On peut être très très aiguisé dans la cruauté, dans l'hypocrisie. On a une belle dentition, n'est-ce pas? Très harmonieux dans le mal. Mais on peut très bien avoir le sourire de Marie n'est pas comme ça, évidemment. Le sourire-là de Marie, le sourire du Christ, de Jésus. Le sourire extraordinaire. Donc cette bête, ça a 10 royaumes, cette bête a 10 rois, domine toute la terre. C'est toutes les vices de destruction pour broyer, tout casser, écraser l'humain, écraser le divin, écraser les sacrements, écraser tout ce que Jésus a apporté. Voilà comment se termine la génération du Christ. La génération du Christ se termine par une catastrophe sur la terre. Mais une catastrophe qu'on commence à avoir, d'ailleurs. C'est pas un secret. Une catastrophe. Jésus n'a jamais dit qu'il terminerait la génération du christianisme par une splendeur, une charité, une foi ardente, un amour, une unité, une, voyez, une sainteté extraordinaire. Non. Et paradoxalement, c'est un bon signe. Pour Jésus, c'est un bon signe. Lorsque le mal apparaît dans toute sa splendeur, dans toute sa cruauté, dans toute sa puissance, lorsque la faiblesse se trouve là à l'état pur, victime, et qu'il n'y a plus d'hommes forts et plus d'hommes faibles, tout le monde est sous la main de l'Antichrist, alors, vous voyez, qui est représenté par cette petite corne qui remplace trois autres. C'est-à-dire là, il a, ça veut dire l'Antichrist, lui, a toute puissance contre les trois premiers commandements. C'est ça que ça veut dire. Tout ce qui concerne Dieu. Tout ce qui concerne l'image et la ressemblance de Dieu dans l'être humain. À ce moment-là, c'est un jour de grandeur pour nous. C'est un jour de grandeur. Évidemment, c'est pas le moment, dans ces temps-là, de s'alourdir dans la débauche, la luxure, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Alors, ça c'est la chose, oui. La débauche, l'ivrognerie et les soucis de vie. Je trouve ça très beau, c'est tout ce qui nous ramène à nous. Tout ce qui nous ramène à nous, les soucis de la vie. Les soucis de la vie, parce que toujours donnant, machin, truc. Faut... Ce souci de sécurité, vous voyez, pour soi. Alors que justement, l'homme est fait pour être tout entier démuni de soi-même par l'amour. Il est fait, créé pour ça. Le fait qu'il soit masculin, féminin, et qu'il inscrit dans son corps cet appel, et dès qu'il découvre spirituellement, métaphysiquement, et aussi dans la lumière, cette dynamisme, cette force, cette puissance inscrite à l'intérieur de ça. De son corps, il découvre qu'il est fait pour être démuni et se retrouver avec une aide. Et cette aide est toute démunie aussi. Et tous les deux font la force de l'image ressemblance de Dieu dans l'unité sponsale. C'est ce qu'on a vu donc. Hein. On arrive jusqu'à cette espèce de nudité. Cette nudité mutuelle, on est par un miracle, il faut bien le dire, parce que nous on est toujours avec ces défauts qui consistent à toujours essayer de se retrouver soi-même, se réaliser, etc. Bon. Se retrouver une compensation, des choses comme ça, oui, on est toujours avec ces bêtises-là un peu idiotes. On n'en peut rien quelque part parce qu'on a été blessé, donc on a besoin de quelque part de se retrouver dans ces dérapages, si je peux dire, par rapport à l'affectivité, par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour, par rapport à la vérité, par rapport à la lumière, et par rapport à la vie éternelle, et aussi par rapport à notre vocation immortelle, par rapport à notre corps aussi. Et ça fait 6 dérapages. On a besoin, quelque part, parce qu'on est blessé. Voilà. Et en hébreu, on dit la nudité, ça se dit. Aruvim, les nudités, c'est en pluriel. Arum, la nudité. Aruvim. Aruvim, c'est les nudités de l'homme, sont des. C'est tout ce qui représente la limite. La trahison, l'échec, la blessure, le dépouillement, l'insatisfaction, la pauvreté. Et quelque part, vous voyez, le mariage est fait pour ça. C'est un de ses grands avantages, en grande partie, c'est que dans la nudité mutuelle, si on vit cette nudité dans l'amour, dans l'unité, et dans la lumière de Dieu, à ce moment-là, toutes nos nudités intérieures sont mises à nu, voyez, dans la prière mutuelle. Tandis que se réalise la, 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 profond abandon dans l'amour mutuel. C'est là qu'on découvre les pauvretés, les limites, les trahisons et les blessures. Des blessures qui font précisément qu'il est si peu facile d'atteindre la perfection dans la transformation totale de l'amour. Avec la médiation de toute notre personne, voyez, dès qu'il s'agit de la communion des personnes, le cœur est impliqué, Dieu est impliqué, la lumière qui illumine la vie éternelle est impliquée, le corps est impliqué, la différenciation sexuelle en particulier est impliquée. Tout est impliqué dans la communion des personnes. Et le corps sert d'instrument. La foi et l'espérance servent de propulsateur, voyez, de ressort. Et la charité sert de carburant. Et par exemple, quand on prie, quand un époux et une épouse sont mariés, et puis qui s'habituent à prier ensemble, surtout dans les moments de plus grande intimité. S'ils s'habituent à ça, à ce moment-là, il n'y a plus aucune difficulté pour qu'il y ait miséricorde, pardon, amour, surabondance, bienveillance et complaisance. C'est ce qui manque ordinairement. S'il n'y a pas la mise à nu de toutes nos pauvretés, il ne peut pas y avoir miséricorde, il ne peut pas y avoir cet enrichissement, voyez, dans l'accomplissement de l'humanité intégrale qui se découvre être sans péché parce qu'elle est le nid, la perfection de Dieu. S'il n'y a pas cette nudité, s'il n'y a pas cette pauvreté, s'il n'y a pas cette mise à nu des limites, des pauvretés, des blessures, ça va ensemble, vous voyez. C'est curieux, hein, ça, hein, que l'union sexuelle, vécue spirituellement, vécue mystiquement, vécue vraiment, disons, vécue totalement, eh ben, permet précisément qu'il y ait une introduction dans l'amour irréformable de Dieu, l'irréformable aussi de nos désirs. On désire ça. C'est pour ça qu'on dit toujours, vous savez, quand on prépare des jeunes au mariage, on leur dit il faudra pas vous aimer parce que vous êtes amoureux, parce que ça c'est un amour capricieux, ça. Mais il faudra vous aimer parce que vous êtes miséricordieux. Il faudra vous aimer parce que vous avez capacité de puiser dans l'unité des deux ce qui vient compléter les défaillances de l'autre et vos propres défaillances. Dans la liqueur d'unité sponsale, il y a toutes les réparations, il y a toutes les rédemptions. Le salut n'est ni dans l'homme ni dans la femme. Mais quand même, c'est à partir de l'unité de l'homme et la femme qu'il y a une puissance obédientielle, c'est-à-dire une capacité, une ouverture à venir puiser dans l'humanité intégrale non blessée, de quoi nous ouvrir à toutes les formes de la consolation, de la rédemption, de la miséricorde, de la surabondance, de la transformation. Et sacrement de mariage sert à ça, bien sûr, hein, puisque cette rédemption, elle est là, à l'état pur, dans la présence vive, hein, lumineuse, réelle du sacrement de mariage, qui ne se réalise qu'à partir du moment où les deux ne font qu'un dans l'intention du sacrement. Donc ça, on avait vu ça plus ou moins les fois précédentes, n'est-ce pas? À partir de la nudité, on fait pénétrer le sacrement qui irrigue et répare C'est beau, vous savez, là, finalement, c'est vrai que c'est très beau, hein, la sponsalité, hein, la sponsalité, le fait qu'on soit époux, le fait qu'on soit épouse, hein, le fait qu'on soit perdu dans ce qui dépasse, et l'époux et l'épouse, dans l'unité des deux. Et qu'on découvre la nudité de notre nudité mutuelle dans le sacrement. On ne peut pas découvrir la nudité mutuelle en dehors du sacrement. C'est strictement impossible. Par les lois de la nature, à cause des feuilles de figuier. Mais avec le sacrement, oui, ça devient possible, cette prise de conscience. Alors, ce que j'aurais pensé que ce serait bien de faire aujourd'hui, de regarder aujourd'hui, parce que quand même, tout n'est pas idyllique. Tout n'est pas... C'est pas le paradis, hein, le mariage. C'est le Golgotha, le mariage. C'est la descente aux enfers. C'est pas tout le temps. C'est pas pour vous. Pas. Sauf pour vous, bien sûr. Mais sinon, pour les autres, ça, c'est très difficile. C'est crucifiant. Il y a des échecs. On a toujours l'impression qu'on peut y arriver. Il y a des désespoirs. Il y a des limites. Quoi. Il y a un moment dit, moi j'ai tellement donné, là, je peux plus. Quoi. Je sens mes limites. Je peux plus. J'ai pardonné, mais là je peux plus. J'ai aimé, j'ai résisté, j'ai patienté, mais. Maintenant, je sais pas. Je me passionne pour quelque chose d'autre, hein, pour quelqu'un d'autre. Alors il y a des infidélités, il y a des compensations. Les compensations, c'est puisque je suis pas capable, je me sens pas capable de recevoir la pureté de l'amour de l'autre. Ben, je vais chercher des compensations, de sorte que par finalement, je vais entrer dans une espèce d'ivrognerie. Je vais avoir le souci de rechercher le plaisir, même avec mon conjoint. Et donc il va y avoir une réduction à l'objet de l'autre. Pour réaliser une troisième réalité qui relève d'une bête avec des dents, qui broie tout, de bronze et de fer. C'est cruel, évidemment, c'est très cruel. Alors quand on se marie, on se met devant... On se met devant, dans l'unité sponsale, on se met devant Jésus. On se met devant l'Immaculé, on se met devant toute la Jérusalem céleste, le ciel est ouvert, qui fait descendre en nous une alliance. Une alliance pour qu'on ne tombe jamais dans cet échec total. Et on se promet unité, fidélité, indissolubilité, fécondité. Sacramentalité. Alors bien sûr, on se promet, c'est beau parce que il y a quand même on sait très bien qu'on restera fidèle jusqu'au bout, on le sait, on n'en est pas toujours sûr, quelquefois que ce sera facile tout le temps, on sait très bien que ce ne sera pas commode, quelquefois, n'est-ce pas ? Bon, ça c'est sûr. Parce que la cruauté revient vite, vous savez. Une femme féroce, c'est horrible. Et un homme qui est violent, ou un homme destructeur, c'est terrible aussi, vous savez. Alors bon, on se le promet quand même. Et Jésus nous le donne. Jésus nous donne dans le sacrement de quoi réparer tout le temps, à sa source, tout ce qui pourrait faire venir ce genre de drame, de destruction, de fêlure, élargir les abîmes de la séparation. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut comprendre, est ce que j'aurais aimé faire passer... Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à comprendre, c'est que quand on se marie, quand on aime, quand on est aimé, et quand on s'est uni, que Dieu s'est engagé, cet amour-là est indissoluble. Il est indestructible. peut y avoir des destructions sensibles, des destructions passionnelles, des destructions psychologiques, mais tant mieux. Sur le plan psychique, sur le plan sensible, sur le plan du ressenti, il peut y avoir des destructions. Ce n'est pas grave. Mais sur le plan du cœur et sur le plan du don et de l'accueil du don dans l'unité des deux en Dieu, ça c'est indestructible. Et on peut le retrouver tout le temps. C'est pour ça que ceux qui sont mariés dans un sacrement, les chrétiens par exemple, ont beaucoup de chance parce qu'ils peuvent, dès qu'ils le veulent, c'est très bien qu'il y a plein qui ne le veulent, qui ne s'en servent pas, ils peuvent, dès qu'ils le veulent, retrouver cette indissolubilité, cette indestructibilité et la faire descendre dans toutes les parties de leur unité profonde d'homme et de femme dans la communion des deux. Et c'est très efficace. C'est très efficace. Mais même si c'est pas un mariage chrétien, prenez par exemple le mariage que se ferait par exemple qui se fait à la synagogue. Le mariage qui se fait à la synagogue réalise une union indissoluble. Et cette union indissoluble se réalise dans la grâce messianique et en Dieu. Et ils peuvent toujours trouver dans cette union qui se sont fait à la grâce messianique, ils peuvent toujours trouver dans la Jérusalem, dans la mère divine qui est dans la Jérusalem d'en haut, ils trouveront toujours, ça fait partie du mystère d'Israël et de la foi d'Israël, ils peuvent toujours trouver de quoi nourrir de quoi bétonner, si je puis dire, de quoi réparer, de quoi miséricordier, de quoi relever, transformer toutes ces tendances que nos blessures font surgir au fur et à mesure et au long des jours. Alors ces blessures, en fait, viennent de l'enfance. Les blessures que nous avons vis-à-vis de notre moitié sponsale, notre mère, de notre époux, notre épouse, ou de l'unité des deux, s'originent dans l'enfance. Et ça, il y a une chose, c'est une chose qui est très très extraordinaire à voir, à comprendre, à saisir, comme loi de la nature. C'est vrai que quand, ça y est, j'assume entièrement de l'intérieur la solitude habitée, vivante, spirituelle et divine de l'autre, dans ma solitude vivante, spirituelle et divine assumée, en moi-même, lorsque les deux solitudes habitées s'assument l'une l'autre dans une unité, dans une communion profonde des personnes, à ce moment-là, on va vers... On passe de l'âge adulte à une redécouverte de notre jeunesse, de nos désirs d'adolescent. C'est vrai, vous prenez quelqu'un par exemple qui a 70 ans, un petit ménage de 70 ans, lorsqu'il se retrouve dans cette assomption de cette solitude vivante habitée de l'autre dans leur propre en Dieu, et il se retrouve à l'état de pure jeunesse. Parce que la solitude est liée à l'état adulte, de la responsabilité vis-à-vis de la création du monde et de Dieu. Et l'unité est liée à la découverte et à la formation de la signification sponsale du corps dans son extériorité et dans son intériorité. C'est la période de l'adolescence et de la puberté. Et alors à ce moment-là, si on va jusqu'au bout, et si on va jusqu'au bout de l'obéissance, de la lumière, la conscience de raison, la conscience spirituelle, la liberté. Alors à ce moment-là, on se retrouve de petit à petit très très proche spirituellement et mystiquement de l'état de l'enfant. C'est un fait, ça. On se retrouve tout enfant. Extraordinaire de voir comme... Et puis, si on va jusqu'au bout du sacrement, on se retrouve à l'état originel. Ça, c'est un processus de maturité, de maturation de l'unité des deux. Et à cause de ce phénomène que vous avez certainement à vous imaginer, ou que vous expérimentez que plus on grandit, plus on mûrit dans l'amour, plus il y a l'abandon, l'interdépendance, l'enfance apparaît. Puis même, vous êtes conçu comme un être nouveau. Et vous êtes tout proche, tu restes à ce moment-là, au terme, au sommet, ou au centre de ce que je suis en train de vous dire, de cet état où on est en conjonction avec le Créateur. Et donc on devient procréateur. Et on peut concevoir un quatrième être, n'est-ce pas? Puisque nous deux, on a conçu un troisième être dans l'unité des deux. Et à ce moment-là, quand on revient tous les deux à l'état dans cet état extraordinaire que donne la grâce, que donne l'unité spontanée, que donne l'innocence dans la nudité et la pauvreté, dans le dénuement, dans ce caractère complètement instrumental, où il n'y a que l'amour qui nous meut, à ce moment-là, il n'y a plus que Dieu qui nous meut et il y a la possibilité de la procréation et de la fécondité. Mais vous voyez bien que toutes les étapes de la vie humaine, je veux dire la conception, la naissance, l'enfance, l'adolescence, la puberté et l'âge adulte, se retrouvent dans l'unité sponsale et toutes les blessures qui ont été traversées depuis la conception vont réapparaître hein, dans le rapport mutuel de l'unité des deux. Il va y avoir des frigidités, il va y avoir des glaciations, il va y avoir des violences, il va y avoir des pulsions, des compulsivités, que sais-je, des fantasmes, le vélo, le cheval qui marche, vous voyez, tout un gangalo, tout ça. D'un seul coup, vous vous y attendiez pas, et ça arrive. Hein. Et bien, le mariage est là, comme sacrement aussi pour réparer toutes les blessures infligées à l'amour au cours de la croissance du corps et de la signification sponsale du corps masculin et féminin depuis la conception. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des épreuves parce qu'elles ne viennent pas de l'autre, elles viennent certainement de moi aussi, c'est vrai, un petit peu de l'autre aussi. Elles ne viennent pas de l'unité des deux, mais elles viennent des blessures qui sont infligées, que je porte dans ma mémoire sponsale, au cours de la formation, vous voyez, cette libération des libertés masculines et féminines qui ne se sont pas faites quand j'étais enfant. Là, évidemment, il faudrait pour ça faire presque un cours scientifique, là. C'est pas très mystique. C'est un cours scientifique, presque. Les différentes. On a certaines conceptions quand on est amoureux, c'est-à-dire quand on a bloqué son développement masculin ou féminin à l'adolescence, vous voyez, dans la contre-dépendance. Et ben, on a du mal à dépasser le 12e degré, vous voyez, de l'amour entre l'homme et la femme. On reste à un niveau psychologique, psychique, passionnel. Et si on grandit, si on creuse, si on persévère, si on patiente, etc., on va peut-être aller au 12e, 13e, 14e degré, jusqu'à la colère, jusqu'à la haine. Et on va croire que l'amour n'existe plus, parce que la haine passionnelle est une forme de l'amour qui exprime un désarroi de l'unité sponsale, parce que l'unité n'est pas spirituelle. Et qu'elle n'est pas physique, ou du moins qu'elle ne s'exprime pas dans la signification sponsale du corps, elle ne s'exprime pas spirituellement par la sexualité. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de tristesse, quelquefois, qui domine la relation pendant 2, 3, 4 ans, puis après ce sera quelquefois la fuite passionnelle, puis tout ça c'est des signes qui montrent. Et même quelquefois la haine. Mais la haine, c'est la haine de cet amour auquel j'aspire. Parce que j'aspire à l'amour humain. Et pour la plénitude de l'unité, de l'union sexuelle et spirituelle. Et de l'union conjugale, quoi. De l'union sponsale. De l'union avec l'amour inépuisable de Dieu. Avec l'alliance entre l'amour de l'instant présent et l'amour éternel. Du ciel à la terre. J'aspire à ça. Je ne serais pas masculin et féminin si j'aspirais pas à ça. Et on ne peut pas non plus refouler la sexualité en disant c'est trop difficile. Et donc, un jour, j'ai rencontré comme ça un ami, FHEC. Il dit, comment t'as fait pour réussir HEC? Ah, mais c'est très facile. À 15 ans, j'ai pris un sabre. Faites pas pareil, hein. J'ai pris un sabre et je me suis coupé ici. Et je dis, maintenant, je vivrai que de ici jusque là-haut. C'est tout. Tout le reste, rien. J'ai pris un sabre, je me suis coupé ici. Comme un saucisson, vous savez. Ça devait être un sabre très fin, n'est-ce pas? Et là, du coup, plus rien. Plus rien. Vous voyez, de là, là, on se voit un peu à la poitrine, jusqu'en bas. Donc, cordon ombilical, on s'en occupe plus. On s'occupe plus de rien. Et effectivement, à partir du moment où j'ai fait ça, résolument, j'étais libre. Pour réussir. Oh, parfouler. C'est incroyable. Et bien sûr, d'accord. Il a réussi au niveau professionnel, mais alors faut voir. Il faut voir. La répercussion sur son ménage, sur l'enfant. Je crois que j'ai jamais vu pire. Pourtant, on en voit. Hein. On en voit des horreurs. Hein. J'ai jamais vu pas de refoulement. On ne refoule pas. Cet appel à l'amour, on n'a pas peur d'aimer. On n'a pas peur d'être à nu. On n'a pas peur de nos faiblesses. On n'a pas peur de se perdre. Hein. On dit aussi, c'est des petits flashs comme ça, mais on dit aussi, vous voyez, quand... Voilà, c'est vrai, j'ai tellement travaillé, à partir du moment où j'ai eu l'âge de 15 ans, on me disait, il faut que tu réussisses tes études, il faut que tu réussisses, il faut que tu bosses, tout ça. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, bah, j'ai jamais regardé... j'ai jamais regardé personne. Moi j'ai regardé mon truc, il faut réussir, c'est tout. Donc de 15 à 22 ans, rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire qu'il faut se jeter sur le premier venu de 15 à 22 ans, je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit ça. Mais rien. Et ça veut dire. Et ensuite je me marie, c'est très bien, c'est un très beau mariage, je suis tombé amoureux, j'ai découvert l'amour, tout ça. Oh, un amour fou. J'ai bien fait finalement de te préparer le terrain pour qu'on puisse vivre ensemble dans la. Voilà, quelque chose de beau, de grand, mais de stable aussi. J'ai quand même préparé, c'était par amour que j'ai fait ça. Vous voyez ? C'est possible. Je ne dis pas que c'est faux. C'est pas complètement faux. C'est en partie juste de dire ça. Mais lorsque je serai marié à l'âge de 28 ans, donc, avec quelqu'un de magnifique, parfaitement accordé, avec la grâce de Dieu et tout ça, et qu'on va vivre ça de manière la plus forte possible. Voilà, comme c'est curieux, au bout d'un certain temps d'unité, d'intimité, de prières communes et tout ça, je continue quand même à travailler, je continue quand même à sortir dehors. Et puis, patatras, je rencontre quelqu'un, 19 ans, 20 ans, magnifique. Et je fais une fixation affective, vous voyez. D'un seul coup, je fais une fixation affective sur quelqu'un d'autre. Je dis, mais quand même, qu'est-ce qui m'arrive? J'en pince pour Iphigénie. C'est effrayant. Alors que, mais non, moi, je n'ai pas en pincé pour Iphigénie. Je dis, attends, mais quand même, le soir, je me dis, bon, ben oui, c'est quand même... Iphigénie a 20 ans, elle me rafraîchit le cœur. Ça peut être très bien si vous êtes une jeune fille, une jeune femme. Oh, dis donc celui-là, mais au moins. Oh, mais je suis en train de découvrir que celui-là, je l'aime. Alors finalement, mon mari, j'ai jamais aimé. Alors, vous comprenez? Donc. Comme c'est. Eh oui. En fait, c'est mon cœur. C'est un phénomène très très curieux, ça. je vais faire des fixations affectives sur des personnes qui étaient pleinement réveillées de manière ordinairement assez saine, hein, mais pleinement réveillées dans leur affectivité à l'âge où moi j'étais complètement refoulé. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que cette personne-là réveille mon cœur qui n'aimait pas quand j'avais 20 ans. Et donc je vais faire une fixation affective, je vais faire forcément des fixations affectives, parce que des blessures j'en ai eu, j'ai pas toujours, j'ai été ou un refoulé ou au contraire un corrompu, dans les deux cas j'ai tout détruit, mais si dans l'un et l'autre cas, si je rencontre quelqu'un qui réveille un amour pur, évidemment je fais une fixation affective qu'on appelle, tiens je tombe amoureux. En fait, on ne tombe pas du tout amoureux. Tout simplement, je découvre au contact de cette personne-là que j'ai un cœur de 20 ans que je n'avais encore jamais connu. Mais maintenant, j'en ai 30. Vous voyez ? J'en ai 35. J'en ai 40. Ça arrive même à 50 ans. Hein. Des mondes midi, ça existe. À cause de ça, des mondes midi, au midi, en plein soleil, on voit ça. Alors, les hommes, à midi, c'est extraordinaire. Parce que quand ils ont 50 ans, c'est en plein midi, en plein soleil. Vous comprenez ? Font des fixations affectives de tous les côtés. C'est merveilleux. Alors, l'épouse a dit, c'est terrible, qu'est-ce qui lui arrive ? Et moi, j'ai l'air de quoi dans cette histoire ? Bon, alors, j'espère qu'elle ne fera pas cette réflexion. Ce serait vraiment pas très intelligent de sa part. En fait, c'est très bon de faire des fixations affectives. Parce que ça prouve que notre cœur cherche la guérison. Si mon épouse, il se trouve qu'elle aussi, de l'âge de 15 à 22 ans, elle s'est complètement coincée pour pouvoir réussir, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a quelque chose qui, à l'âge de son cœur de 15 à 22 ans, ne m'aime pas. Et moi, je n'aime pas ma femme avec un cœur de 15 à 20 ans. Or, je dois l'aimer avec tout mon cœur, toute ma vie. Toutes mes puissances. Donc c'est normal qu'à un moment donné je rencontre quelqu'un et puis tiens, Iphigénie, c'est extraordinaire, c'est une déesse, c'est extraordinaire. Quelle pureté, c'est formidable. Alors, on dit toujours aux fiancés, vous savez, ça va vous arriver forcément au moins 4 ou 5 fois. Sinon, il y a un problème. Bon. Ça va vous arriver au moins 4 ou 5 fois. Bon, très bien. Mais quand ça va vous arriver, ne prenez pas le marteau piqueur pour approfondir. Laissez rentrer, laissez-vous découvrir que vous avez un cœur nouveau, un cœur de 20 ans. Une fois que cet amour amoureux, j'allais dire sensible, vous aura réveillé dans quelque chose qui a été massacré, voyez, et bien à ce moment-là, le soir, dites bien à Caroline, c'est Caroline, mais cette fois-ci, mais c'est avec ce cœur réveillé par Iphigénie que vous allez vous tourner vers Caroline et que vous allez dire, c'est Caroline que je préfère. Et c'est grâce à Iphigénie que je vais aimer Caroline d'un amour toujours plus nouveau, toujours plus jeune. Alors, je passerai sur les détails concernant les conseils qu'on donne sur le type de fixation affective. Il y a certaines fixations affectives qu'il ne faut pas faire durer plus de 2 jours sans faire un acte de recentrage dans l'unité sponsale. Il y a d'autres fixations qu'on ne doit pas faire durer plus de 22 jours. Et il y a d'autres fixations qui est strictement stupide de faire durer plus de 9 mois. Mais c'est pas, elles ne sont pas de même nature. C'est pas ici le sujet. Mais de toute façon, voyez par exemple, prenez un prêtre de paroisse. Bon, il est dans le célibat. Il s'offre dans l'amour sponsal du Verbe incarné et de la féminité de la grâce incarnée, presque visible à ses yeux, sensible et tout ça. tout le temps, mais quelquefois, il dit, moi, depuis qu'il a 5, 6, 7 ans, il va être prêtre, vous comprenez. Donc il a fait très attention, elle a été parfaitement chaste, ce qui est très bien, parce que du coup, sa virilité se met en place de manière forte et pressante. Bon, très bien, c'est un homme viril, on l'espère, mais malheureusement, nous ne sommes pas tous comme ça, mais la grâce est dans ça, devrait être ça, n'est-ce pas? Bon. Et puis voilà, parmi les paroissiennes, il y a une reine qui est là. Et, tu vois, c'est ça qui est. Et tu dis, ben tiens, c'est. Et puis quelquefois, et puis tu vas être sensible, puis le soir, pendant ta prière, tu dis, Seigneur, viens à mon aide, voilà, à notre secours, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Attends, j'ai le fantasme de d'Iphigénie, là. J'ai Iphigénie dans la tête. Bizarre, cette histoire-là. C'est extraordinaire, ça, hein. Là, à ce moment-là, c'est bien. C'est bien parce que, en fait, ces fixations affectives sont un carburant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une tentation. C'est le démon qui fait que. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est un carburant. Un très bon carburant. Iphigénie. Un très bon carburant. Et du coup, le soir, quand je dis la messe. Que je réalise que mon cœur s'est réveillé, que mon corps s'est rafraîchi, que mon affectivité s'est ouverte, etc. Bon, très bien, je l'aime bien, je dis merci Seigneur, mais c'est toi que je préfère. Et du coup, mon amour pour Jésus ne cesse de se rajeunir, comprenez ? Il ne cesse de se viriliser, que c'est terrible, des prêtres qui ne sont pas virils. C'est effroyable. Mais c'est pareil pour un mari. Un mari qui n'est pas viril, ça ne va pas. Je parle d'une virilité affective. Donc ne pas prendre tout ce qui nous arrive comme des tentations, comme des fautes qui culpabilisent, comme des trahisons insupportables, mais comme un carburant. Quand dans la nudité mutuelle, des blessures se mettent à jour, une exaspération, une distance, un rejet, une incapacité à continuer, une colère irrationnelle, des choses comme ça. Quelquefois ça ne va pas jusque-là. Pas besoin que ça aille. Pas besoin que ce soit un dragon avec des dents et avec des cornes. Quelquefois, c'est pas. On n'est pas entièrement dans l'extase. On n'est pas emporté dans le ravissement surnaturel. On n'est pas emporté dans la Jérusalem spirituelle. C'est sur la base de l'unité dans laquelle on s'est écoulé délicieusement dans l'unité des deux. Non, c'est autre chose. Il y a un égoïsme qui apparaît. Ou une peur. Une petite peur. Une angoisse. Ben ça, ce qu'il faut comprendre, c'est tant mieux ça. C'est tant mieux. Parce que si j'arrive à assumer cette peur, cette angoisse, cette distance, cette exaspération, cette colère irrationnelle, même si elle n'est pas perceptible à l'autre, elle est perceptible à l'autre, elle est toujours. Mais si dans l'unité des deux, elle s'exprime, et elle s'exprime toujours grâce à la nudité, parce que le corps parle toujours très fort. Alors, eh ben. À ce moment-là, si je la retrouve, si je la reprends en main, je vis ce qu'on appelle un événement analogique. C'est-à-dire, je revis un manque d'amour qui m'a blessé, qui m'a arrêté, et qui m'a fait dévier de la voie libre vers l'amour sans obstacle, une blessure qui date ou de mon adolescence, ou de mon enfance, ou de ma conception. Et donc, il va falloir apprendre à vivre ça dans le sacrement en présence de Jésus, dans l'unité sponsale, en présence de Marie, en présence de la Jérusalem céleste, en présence du Père, celui qui a le Père, a le Fils, celui qui a l'Époux, a l'Épouse.
de mariage, donc comment guérir de ces blessures?
Ah, mais le fruit du sacrement de mariage. Moi, j'ai pas de sacrement de mariage, mais je peux vivre du fruit des sacrements. Je sais que le sacrement de mariage existe, donc je vis du fruit des sacrements de mariage. Ok. Et puis, si quiconque, si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire. Moi, je suis célibataire, donc je suis foutu. Oh, d'accord. Je dois traîner toutes mes blessures. Et non, justement, on y viendra, ça. On y viendra comment, on est, une fois le sacrement de mariage, une fois qu'on a bien vu le sacrement de mariage, comment le sacrement de mariage offre son espèce de plat de diamants, d'or et de lumière, le fruit du sacrement à tous les autres. Et donc, ils font en vivre dans la signification sponsale de leur corps. Hein? Il y a une dimension sponsale à toute vie humaine. Bien sûr, heureusement. Selon la manière dont l'homme et la femme, dans l'unité sponsale, ont présidé dans la liberté originelle d'innocence divine à la conception de leur enfant, selon la manière dont cette conception s'est réalisée, il y aura déjà un certain problème, enfin, ça va conditionner en tout cas le climat de l'identité de l'enfant, l'instant de la conception. Pourquoi ? Parce que c'est bien dans l'unité des deux que lorsque l'homme et la femme se dissocient, qu'il va y avoir une unité symbiotique entre la mémoire d'amour de l'époux, la mémoire d'amour de l'épouse à travers cette tension intergamétique, vous voyez, dans le ventre maternel, jusqu'à ce que se réalise le début de la fécondation, puis pendant 19 heures, c'est-à-dire traduisé sous l'ombre de Saint-Joseph, de la paternité de Dieu, pendant 19 heures, cette tension intergamétique de l'amour de l'époux et de l'amour de l'épouse, sous un mode de mémoire biologique, portée par la présence attentive de la sagesse créatrice de Dieu, va aboutir, au bout de 19 heures, à la création. À la création de l'être nouveau, dès qu'apparaît le génome. Et bien sûr que le conditionnement d'amour de l'époux et de l'épouse, qui reste dans cette tension intergamétique gardée par la paternité de sagesse divine de Dieu, qui va créer, bah, porte cet enfant à une certaine capacité d'amour qui sera plus ou moins grande. Il n'y aura rien de mauvais. Il n'y aura aucune blessure à cause de la conception. Par exemple, prenez un viol, par exemple. Il n'y aura jamais de blessure à une conception. Jamais. Mais il y aura quand même moins d'amour de l'époux, si c'est un viol, ça, c'est par exemple, je prends le cas, il y aura peut-être beaucoup d'amour de l'épouse, et c'est cette tension d'amour, cette somme d'amour, vous voyez, portée par la présence créatrice de Dieu, qui va présider au climat de la création d'amour sans limite de Dieu dans le génome. Donc il y aura plus ou moins d'amour sponsal dans la tension intergamétique de l'unité sponsale, ça va, pendant les 19 heures de fécondation. Il y aura donc, quelque part, non pas un manque d'amour, mais un amour qui sera parfait, sera créé dans un amour symbiotique parfait. Parce que l'amour symbiotique, vous voyez, la tension intergamétique, il n'y a plus l'homme, il n'y a plus la signification sponsale de l'homme, il n'y a plus la signification sponsale de la femme, il n'y a plus que la signification sponsale de l'unité des deux, hein, c'est fini. Mais il y a plus ou moins d'amour dedans. Donc il va y avoir, vous voyez, notre vie va être donc consacrée par ce conditionnement qui vient aussi, bien sûr, du péché originel, c'est là que vient le péché originel. Parce qu'évidemment, il n'y a pas une plénitude d'amour, de l'image ressemblance de Dieu dans l'amour créateur de Dieu. Il y a une perfection d'amour, mais une insuffisance dans cette quantité, si je puis dire, amoureuse. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un manque, il y a une espèce de manque. Pas dans la conception, il n'y a pas de manque, parce que Dieu remplit tout. Sinon, il n'y aurait pas de liberté originelle. Mais du côté des parents, oui. Toujours. Et c'est ce qui d'ailleurs conditionne ce fait qu'on va chercher, dans la participation au péché originel, dans le Yetzerara, la tendance, on va avoir une tendance à aller chercher ce qu'il y aurait pu y avoir de l'amour de l'homme et de la femme dans ce qui a présidé à la conception. Puis, aussitôt, il va y avoir. L'enfant va l'enfant aussitôt créé va se multiplier, se transformer en cosmonaute, multiplier ses cellules à une vitesse considérable. Et puis au bout de 8 jours, il va s'implanter dans la paroi utérine. C'est un très beau moment, ça. Il faudrait faire tous les moments, mais on n'aura pas le temps, bien sûr. Mais là, ici, il est très très beau moment. Quand il commence à arriver sur la paroi utérine, il est organisé dans la présence du DNA du père et de la mère. Et de son propre DNA à lui, à travers ça, si je puis dire. Donc la mère reconnaît donc que ce n'est pas son DNA à elle, à l'état pur, donc elle essaie de détruire cet enfant, n'est-ce pas, qui arrive, qui se pose sur sa paroi, sa muqueuse utérine, et l'enfant secrète au contraire un message à la mère en disant c'est ta moitié sponsale qui est là, c'est pas quelqu'un d'autre. Et à toi est à moitié sponsale, donc c'est l'enfant qui défend l'unité sponsale à la mère en frappant à la porte. Alors la mère dit c'est l'unité sponsale. Et évidemment, s'il y a un minimum d'amour de la femme pour cette unité sponsale, elle s'ouvre et l'œuf descend dans la paroi utérine. Mais il y a beaucoup d'œufs qui disparaissent à ce moment-là parce que la mère n'aime pas d'un instinct divin, métaphysique, elle n'a aucun amour dans l'unité sponsale et donc elle se ferme. Et finalement, il ne rentre pas. Mais de là, vous voyez, donc il y a une première séparation pour rentrer dans la muqueuse utérine. Puis encore 14 jours après, il va y avoir une seconde séparation pour que cet œuf donc se libère à nouveau et rentre dans la muqueuse amniotique. Et donc il va y avoir, dans tout le long du processus de la formation de l'enfant dans le sein maternel, sans arrêt une séparation, un attachement, une nouvelle séparation, un nouvel attachement. Mais à chaque fois avec un enrichissement nouveau. Il faudrait faire une espèce de livre. S'il n'y a pas de séparation, la séparation, voyez, est liée. La séparation est liée au père. Vous voyez, j'arrive sur la muqueuse, 8e jour, j'arrive sur la muqueuse utérine, et il y a une séparation, la mère, non. Parce qu'il y a le père. Le père est toujours à l'origine d'une réaction de séparation. Je suis toujours. Le père me sépare toujours du fusionnel avec mon père et ma mère, mais c'est pour pouvoir rentrer profondément, mais moi-même, ayant fait ce que je devais être. Donc j'ai défendu mon père. J'ai aimé mon père, je l'ai défendu, ma mère m'a accueilli dans son unité sponsale. Et tous les phénomènes biologiques sont liés à une activité spirituelle. Il ne faut pas dire que l'enfant, au 7-8e jour, comme d'ailleurs au premier jour, n'a pas de liberté, n'a pas de conscience, n'a pas. Il a une conscience d'amour très forte. Donc il perçoit très très bien le manque d'amour, il perçoit aussi très très bien cet amour qu'il est dans la créature de Dieu. Il le perçoit beaucoup mieux que nous. Mais en tout cas, toute séparation est pour une réintroduction, un nouvel attachement, plus grand, plus profond, qui lui-même va engendrer une nouvelle séparation, liquide amniotique, vous voyez, pour une unité plus grande et une formation plus grande, et vous savez bien. C'est à partir de la 8e semaine que le sens du toucher arrive avant, mais le sens du toucher déjà. Mais un truc très important, c'est l'ouïe. L'ouïe, l'enfant commence à entendre la présence du père. C'est extraordinaire, ça. À la 8e semaine, c'est avant la fin du 2e mois. Alors, effectivement, il y a des tas de choses qui se produisent là. Si le père et la mère ne se respectent pas à ce moment-là, L'enfant l'entend très bien, cette fois-ci avec ses sens externes. Et ça produit, là aussi, quelquefois, bien sûr, mais le plus souvent, ça produit beaucoup d'amour parce qu'il entend la voix de son père. Alors, c'est comme s'il se séparait de sa mère et il commence à bouger, à aller du côté de son père, vous voyez, dans le ventre. Toutes les mères qui étaient enceintes savent ça. Quelquefois, il y a les pères qui rigolent en disant « Attends, je me mets là. » Puis, je parle ici, alors, il se met par là. Alors, il sort du lit, il se met de l'autre côté, il dit « Oh, je suis là, je suis pas là-bas. » Il bouge. Il commence à apprendre ce sens d'être lui-même dans la séparation de la mère, voyez, puisqu'il sortira un jour. La séparation de la naissance fait souffrir, c'est évident. Fait souffrir, c'est une souffrance. Quelquefois, il y a des naissances qui sont très mal vécues. Une souffrance qui est vécue dans la présence d'amour de Dieu, dans la présence d'amour. Regardez par exemple la présence de Noël quand Jésus est né. C'est quoi l'amour qu'il y avait entre Marie et Joseph, tellement fort qu'ils ont été transfigurés physiquement. Et du coup, Jésus est né à travers eux, comme il est passé à travers les portes du Cénacle, sans s'abîmer. C'est une séparation dans plénitude d'amour. Mais s'il n'y a pas cette unité sponsale transfigurée, il y aura un petit peu plus de souffrance dans la naissance. Mais en tout cas, cette séparation de la naissance de la mère, elle est faite pour retrouver la mère corps à corps, extériorité à intériorité. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que de la conception jusqu'à environ le 9e, 8e mois après la naissance, il y a d'abord une phase symbiotique. Symbiotique, quand l'enfant est en symbiose avec la mère, et cette symbiose est conditionnée par l'intensité d'amour qu'elle peut avoir avec le père. Cette symbiose sera plus ou moins bien vécue selon qu'il y a eu affection, attention, admiration, sacrifice, présence mutuelle, prière. Et bien évident que quand on se retrouve dans le sacrement et qu'on vit pleinement, mystiquement et sensiblement de l'unité des deux en Dieu, on répare toutes ces blessures-là, qui sont évidemment les plus difficiles à atteindre. C'est facile à comprendre pourquoi. Après la phase symbiotique, il y a de l'âge de 9 mois jusqu'à environ l'âge de 2 ans à peu près. Non, il y a d'abord une phase de dépressive de l'enfant. L'enfant a une espèce de dépression. Vous savez, l'enfant il a 9 mois et est porté, il ne peut pas. Et il va sortir de cette symbiose avec la mère et à travers la mère, ce rappel de l'unité que lui-même lui a induit avec son père, n'est-ce pas? Bon, dans toute sa peau, dans toute sa chair de femme. Et il va se séparer, donc il y a un moment donné, il y a une phase dépressive parce qu'il dit tiens, c'est pour ça qu'à cette époque, c'est des moments où l'enfant, vous le savez, ça, il ne veut pas aller dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais dans les bras d'oncle Patrick, par exemple, je ne veux pas. C'est à ce moment-là, l'enfant, il va faire ses premières maladies, ses premières. Ça va se traduire par certaines. Et donc il y a une phase dépressive. Dans les phases dépressives, quelquefois, ça peut être mal vécu parce que si dans la phase dépressive, vous mettez flanqué systématiquement l'enfant entre les bras d'une nourrice ou du voisin ou de la voisine. C'est sûr qu'il va y avoir des difficultés. Des difficultés, c'est évident. Et qui vont rejaillir, bien entendu, après, dans le mariage futur de l'enfant. Après la phase symbiotique, il y a une phase de contre-dépendance. Vous savez, la contre-dépendance, c'est bon, il y a une phase d'abord de la phase symbiotique fait qu'après on rentre dans une phase non pas de d'unité symbiotique, ce n'est pas fusionnel, hein. L'union symbiotique, c'est une unité amoureuse, c'est une unité personnelle, c'est une unité d'amour, c'est une unité un peu mystique et biologique en même temps. Hein. Parce que le fusionnel, c'est anti-spirituel. Le fusionnel, c'est purement métapsychique. Pour me calmer, je rentre dans une unité fusionnelle avec quelqu'un d'autre. Comme ça, je suis déresponsabilisé. Hein. Il n'y a pas d'unité fusionnelle, ça, faut abolir l'unité fusionnelle. Le fusionnel, c'est psychologique. Et le fusionnel, si vous voulez, c'est un amour de similitude. C'est-à-dire que tous les amours naturels de l'enfant et de l'homme et de la femme sont des amours d'ordre sponsal. Donc, ils impliquent une séparation et une unité avec quelque chose qui exprime toujours l'altérité. Je suis quelqu'un d'autre. Et donc il va y avoir une phase de dépendance. Et après cette phase de dépendance, il va y avoir d'un seul coup une phase de contre-dépendance. C'est-à-dire à l'âge de 2 ans, 3 ans, bon, l'enfant, il a, vous le savez bien, à un certain moment, il dit, attends, bon, alors maintenant tu vas manger pour faire plaisir à ta maman, tu vas bien manger ta soupe. Non ! C'est ça, c'est non. C'est, bon. Tu touches pas à ça. Ah, il touche à ça. Tu te fais dire, allez, fais un gros baiser. Non. Et ça, l'enfant va rentrer dans une phase de contre-dépendance. Bon, cette contre-dépendance, elle signifie quoi? Elle signifie que je ne peux pas être tout le temps dépendant de ma mère, il faut aussi être mon père, il faut être à travers ma mère de mon père. Mais s'il y a beaucoup d'amour, si l'amour grandit dans cette phase de dépendance, vous voyez, donc de l'âge de 9 mois, enfin 10 ans, en fait, 10, 11, 11 mois, parce que la phase dépressive dure quand même quelques mois, jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans. Si beaucoup d'amour, à ce moment-là, je grandis spirituellement, je réalise que je commence à voir bébé, le bébé, je me vois dans le miroir, dis, oh! Avant cette phase de, avant cette maturité d'amour dans la phase, j'arrive pas à m'aimer moi-même, à me voir moi-même, puisque je me vois toujours en phase de dépendance, en phase d'amour symbiotique. Vous voyez, mais donc je me vois toujours à travers l'amour des parents. Tandis que là, c'est à travers l'amour des parents que je peux me voir moi-même comme un reflet de moi-même. Je peux me voir. Et c'est à ce moment-là, vous rappelez quand même, hein, que si vous avez eu des enfants, qu'à un moment donné, l'enfant il peut voir dans, tu vois, ces bébés là. Ah bébé, ouais, je me rappelle que là, mes parents ils s'amusaient beaucoup à me mettre devant un miroir. Je veux dire que quand j'avais un an et demi, un peu avant 2 ans, et c'est parce que j'ai un jumeau alors. Je dis aïe, Bruno. Je me voyais pas moi, vous voyez. Je voyais. Se voir soi-même dans un miroir, ça c'est quelque chose. Il faut qu'on puisse se voir avec beaucoup d'amour. Mais s'il n'y a pas eu un amour, si je n'ai pas été aimé par mon père, par ma mère, si je n'étais pas engendré, enveloppé, irrigué par l'amour mutuel des deux, lorsqu'il me faisait manger, me faisait boire, me faisait dormir, etc. Et ben, c'est sûr que du coup, je vais me voir reconnaître dans un miroir, mais pas avec admiration, pas avec beaucoup d'amour. L'amour ne va pas grandir. Il y aura des blessures de non-amour dans ma découverte de moi-même. Puis la phase de contre-dépendance est une chose très belle parce que l'enfant dit non, il dit dit oui, non. Alors le piège, c'est de dire dit non. Alors l'enfant, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il dit, attends, si je dis non, je dis ce qu'il m'a dit de dire, et si je dis oui, c'est ce que je demande, ce que je ne veux pas dire. Alors donc, il y a un problème. Mais si vous voulez le piéger, piégez-le avec beaucoup d'amour. Hein. Mais il ne faut pas le piéger trop vite, parce que sinon, vous le désarçonnez. Et si vous le désarçonnez dans cette phase de contre-dépendance, attention à l'adolescence. Parce que si vous ne vivez pas avec cet enfant, avec beaucoup d'amour, beaucoup de découvertes, beaucoup d'admiration, cette phase de contre-dépendance, alors à ce moment-là, vous allez voir, la contre-dépendance, il y en aura 14 ans. Ça sera autre chose. C'est beaucoup plus difficile à gérer. Il faut beaucoup plus d'amour. Et beaucoup d'amour entre l'homme et la femme, les parents. Pour arriver à aider, à protéger, à relever le cœur de son adolescent lorsqu'il part dans un phénomène névrotique, quelquefois psychotique terrible. Dans son adolescence, vous voyez. Bon, en tout cas, une chose est sûre, quand vous voyez le bébé qui commence pour la première fois à dire « Papa, papa » ou alors « Chema, chema, chema » c'est le premier mot qu'un fils d'Israël doit prononcer. « Chema, ah !» Alors là, quand les parents disent « Il a dit chema !» Chemin. Alors, admiration, vous voyez, admiration. Ça y est, il a prononcé, écoute, Israël. Me voici, chemin. Il l'a prononcé. Alors, vous êtes dans l'admiration. Mon tout petit qui a prononcé. Et il rentre dans la conscience, vous voyez, extraordinaire. Il va passer de la conscience mystique à la conscience religieuse. Alors, du coup, comme une conscience religieuse, la signification spontanée de sa solitude commence, hein, si je puis dire. Et en même temps, du coup, il est différent. Il n'est plus en symbiose. Il est déjà en relation avec sa future moitié spontanée, avec la signification spontanée de son unité avec Dieu, Jésus, tout ça. Donc il va dire non à la symbiose. Il va dire non. Mais la première fois que vous voyez le bébé qui commence à marcher, « Ah, oh, tu as marché, bravo !» Tu lui dis bravo. Et la première fois que tu le vois, qu'il commence à marcher dans la prise de conscience de sa solitude, il faut lui dire bravo aussi. Ou alors, toi, tu as été blessé dans ton enfance, ta moitié spontanée ne supporte pas tes réactions d'adolescent, que tu as quelquefois, n'est-ce pas ? C'est-à-dire des relations capricieuses. Là, l'enfant, l'adolescent, type qui n'a pas résolu son problème d'adolescence, il est capricieux. Moi, j'ai envie de ça. Ça, j'ai pas envie. Il faudrait quand même qu'on puisse se retrouver quand même dans l'unité sponsale. J'ai pas envie. Ah. Bon, là, j'ai envie, ça va. Bon. Alors, c'est un peu embêtant. Un peu embêtant. C'est pas une question d'envie, pas envie. Bon, enfin, peu importe, donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'envie. C'est nécessaire. C'est tout à fait différent. C'est une vocation. C'est comme si moi, j'ai pas envie de dire la messe. Hein, j'ai pas envie de dire la messe. Si tu arrives le dimanche devant les paroissiens, bon, j'ai pas envie. Enfin, c'était, mon père, est-ce que vous voulez bien me confesser? J'ai pas envie. Mais remarquez les paroissiens. Mais pourquoi vous ne confessez pas? J'ai pas envie. Ah, bon. Ça c'est l'adolescent, vous voyez. Souvent, les parents, eux-mêmes blessés dans leur adolescence, n'ont pas reçu beaucoup d'amour. L'amour permet de voir que quelqu'un existe, qui grandit. Donc, il se sépare, mais il veut montrer qu'il existe, qu'il est grand, qu'il peut dire, c'est plus bébé, c'est moi, c'est je. Alors, on va plus dire « Ah, oh, bébé a dit non !» Dire « Ah, tu as dit non !» Ça, c'est bien, ça. Ça y est, tu fais ta phase de contre-dépendance. Tu marches maintenant. Ça, c'est drôlement bien. Alors voilà, continue comme ça. Ah, c'est bien. Eh, papa, viens voir, regarde. On va lui demander quelque chose. Alors, dis donc, tu vas prendre le yaourt maintenant, hein, d'accord, hein? Non. Ah, c'est bien. Allez, on va laisser faire vivre cette phase de contre-dépendance. On va laisser dire je. Maintenant, c'est plus bébé, c'est je, c'est lui, c'est tu. C'est un enfant. Il devient un enfant. Il est lié à Dieu. Il peut prier consciemment, librement. On est passé de la conscience mystique à la conscience religieuse de l'enfant. Il y a quelque chose de très fort qui se passe à ce moment-là. Et du coup, il va passer ensuite, une fois que, si, c'est avec beaucoup d'admiration, d'amour, de satisfaction, etc., des parents, après, il le piège un peu. Ils vont quand même pas le laisser faire trop son caprice. Dans un non systématique. Parce que les parents vont d'abord lui montrer qu'ils sont très contents, parce que c'est je, et maintenant que c'est toi, maintenant que c'est tu, maintenant que c'est plus bébé, ben maintenant bébé, eh ben il faudra peut-être qu'il dise non. Alors dis non maintenant. Alors là, oui, à un moment donné, il faut lui faire sentir la limite de la contre-dépendance, et donc il va apparaître avec la présence, dans son autonomie de présence de Dieu, cette espèce de volonté de Dieu, cette volonté de Dieu dans la sienne. Et il va y avoir la découverte de la loi, la découverte de la limite à ne pas franchir. Donc on va le laisser faire un maximum de choses, on va lui montrer sa contre-dépendance libre, mais on reste quand même dans un regard d'amour vis-à-vis de lui, et on le protège. Ça, c'est le rôle du père. Et on le protège quand même, il ne se tue pas. Mais on le laisse aller vers différents dangers, tout ça, ça tout à fait. Et on ne reste pas dans le truc sympathique, vite dans le sein maternel, comme ça, tu seras en sécurité. Non. Mais en même temps, on va lui donner donc des limites à ne pas franchir, et donc il va avoir le sens de la loi, le sens de la règle, des limites à ne pas franchir. Grâce à quoi, eh ben, si vous voulez, il ne fera plus désormais, après, dans sa vie, même dans l'adolescence, si cette phase est bien vécue, avec son corps, avec sa sexualité, mais aussi avec son irascible, pareil, il ne fera plus ses caprices, hein, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. Alors, ou bien je vis très mal avec mes parents cette phase de contre-dépendance, ça date d'il y a très longtemps, vous voyez, hein, si on a 50 ans, regardez, si on a 60 ans, c'était il y a 58 ans. Alors, c'est loin tout ça. Oui, mais dans l'unité spontanée, on le retrouve. Ah oui? J'ai vécu un non-amour, mes parents ne m'ont pas reconnu, ils n'ont pas voulu que je sois moi-même. Alors du coup, ben, je me suis écrasé. Alors il y a des gens qui s'écrasent et qui restent dans une relation de similitude. Ça va faire... Ça, c'est la base de l'homosexualité, hein. C'est la base de l'homosexualité, ça. Là, je vais faire comme ma mère, puis voilà, je vais m'écraser. Ou alors, voilà, ça fait deux types de réactions possibles. Ou alors je m'écrase, ou alors je vais écraser les autres. C'est l'un ou l'autre, hein, tous ces caprices. Ça date de là. Et derrière ça, il y a un manque d'amour et un manque de sécurité des parents eux-mêmes qui ont pris l'habitude de faire uniquement ce qu'ils ont envie, quand ils ont envie. Alors là, à ce moment-là, ça fait quelque chose. Ils ne font pas un homme et une femme. Ils ne font pas un jeune homme, ils ne feront pas une jeune fille. Ils font des PD et puis c'est tout. Pas plus, hein. Vous savez, il y a beaucoup de divorces, c'est vrai. C'est 80% des divorces sont demandés par la femme. Impressionnant ça. Et quand il y a des divorces, là, dans plus des trois quarts des cas, l'enfant est confié à la mère. Et dans 60% des cas, 2 cas sur 3, l'enfant ne voit pratiquement plus son père. Et c'est lié à ce fait, j'ai envie, j'ai pas envie. Faire attention quand même, par exemple, que dans la phase symbiotique, l'enfant a des besoins. L'enfant a des besoins. Et il faut beaucoup d'amour. C'est sûr qu'une mère et un père donnent leur vie. Donc c'est sûr, la nuit, ils vous réveillent, etc. C'est évident. Donc il ne faut pas confondre caprices. Faut pas dire que dans la phase symbiotique, ce sont des caprices. Il n'y a pas de caprices dans la phase symbiotique. L'enfant a des besoins, il a un besoin. Et quand il a besoin de lait, quand il a besoin de la voix de sa mère la nuit, quand il a besoin d'une présence, c'est un besoin d'amour qu'il a. Et qui s'exprime à travers un besoin de se nourrir, un besoin de lait, un besoin d'entendre. C'est le besoin d'amour, il n'y a jamais de caprice. Cependant, si le besoin va trop fort, c'est vrai, le père joue un rôle à un moment donné, quand il a, par exemple, justement, comme on le disait un peu au bout de 9 mois, quand va arriver la phase un petit peu dépressive, Ben, le père joue un rôle très important parce qu'à un moment donné, il dit écoute, je te donne une petite tape sur les fesses, hein. Faut pas réveiller maman, elle est fatiguée. Alors moi, je te donne le biberon maintenant, hein. Et puis, pop, 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 pop. Et là, d'un seul coup, l'enfant, il dort. Il ne réveille plus personne. Pourquoi ? Parce que c'est le père qui joue un rôle d'amour séparant pour un attachement plus grand dans une phase. Alors à ce moment-là, l'enfant se sent un peu abandonné, d'où la phase dépressive. Il commence à avoir des maladies, etc. Mais c'est justement à partir de là, etc. Vous voyez, donc le rôle de complémentarité de l'époux et de l'épouse est très très fort. S'ils s'aiment mutuellement, je n'ai pas besoin de connaître toutes ces techniques. Ce n'est pas des techniques, ce n'est pas des méthodes. S'il y a pleine masculinité, pleine féminité dans l'unité sponsale, lorsqu'ils font l'amour en Dieu, dans la nudité et dans la mystique, dans la plénitude de la présence de Dieu, est invité en plénitude à vivre ce sacrement, dans la mission, la vie des personnes divines, dans leur unité de corps, d'âme et d'esprit. Alors à ce moment-là, croyez bien que ça se fait instinctivement, la mise en place de la signification sponsale du corps dans l'enfant, quand il a 2 ans, quand il en a 4, pratiquement à 4 ans, tout est joué. Pratiquement. Au niveau du conditionnement. Hein. Bon, donc on en était à la phase de contre-dépendance. Après la phase de contre-dépendance, il va y avoir une période au cours de laquelle l'enfant va prendre un petit peu de plus en plus conscience de la prière, de son autonomie, tout ça. Oui, il me reste combien de temps ? Voilà, c'est pour éviter d'aller. Je vais essayer d'aller plus vite, mais pour ça, il faut que je prenne mon petit tableau.